Dhamma chandhe jinshinwa ta chambha yandhamba sumbhe sanje dhikpa tang shaksa dhamma dhamma ewa shibha jithi chimpa chibha dhuye kalo lana mekwa lata minanje dhamma sanje jant penjava shakya dhubha la chase lo jitho jasa chewo dhamma chandhe jinshinwa ta chambha yandhamba sumbhe
Lana me ba la da me nan je dan ba san je jan pe jo wa shan jan do ba la cha zhe wo jin do jin wo je wo a je ne min lum ta ba che ya e ni to rang ju yi min lum le ya ta ba che ya ta chen bu ye ba yin ba le da ta le ya ji la da la wan ja wan do ju ten de ge da chen bu min lum ji sang wa ju na da
Normalement, après la nuit, au moment juste avant de se réveiller à l'aube, il est possible que nous ayons eu des rêves. Alors, on distingue différents types de rêves. Certains sont considérés comme étant de bon augure. Par exemple, si on voit dans un rêve notre maître spirituel ou une déité ou des fleurs, un beau paysage, et si l'on se réveille avec l'esprit très joyeux, on considère que c'est de bon augure. Si au contraire, on a un rêve qui est lourd, dans lequel on voit par exemple un temple qui tombe en ruine ou un lieu couvert de poussière, ou il y a toutes sortes d'autres signes de ce genre. Et si l'on se réveille avec un peu un sentiment de mal à l'aise, à ce moment-là, on considère que ce rêve n'est pas très bon. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas non plus s'attacher à ce genre de choses, notamment à ce qu'on pourrait appeler un bon rêve ou un rêve auspicieux, de bon augure. Car cet attachement, que reflète-t-il ? Il reflète la saisie des phénomènes que nous considérons comme étant doués d'existence propre. Et cela peut arriver aussi dans nos expériences méditatives. Et c'est certain qu'il faut développer un esprit compassionné, un esprit de confiance, une paix intérieure, et qu'on peut très bien sûr, faire l'expérience d'une grande compassion sans aucun attachement. Mais bien souvent, lorsque nous, débutants, avons parfois des expériences de compassion intense, eh bien nous mêlons ça avec de l'attachement à la solidité des choses, à la réalité des choses. Et donc, du point de vue ultime, il n'y a pas de pire obstacle à la fois au chemin spirituel et à notre paix intérieure que de s'attacher à l'existence véritable des phénomènes. Maintenant, d'un autre côté, il n'y a pas de plus grande protection que la compassion. Il peut arriver, bien sûr, que pour des raisons karmiques ou tout autre, pour toutes sortes de circonstances, on ne peut pas nier que l'on ressente parfois des influences un peu négatives ou des conditions difficiles. Mais dans ce cas-là, bien sûr, il y a toutes sortes de méthodes. On peut utiliser, par exemple, des mantras reliés à des divinités courroucées. Mais pour cela, il faut réunir toutes sortes de conditions favorables. Il faut avoir une méditation stable sur la visualisation de la déité. Il faut avoir accompli un certain nombre de récitations des mantras. Donc, ce n'est pas évident. En revanche, la compassion est de loin la méthode la plus suprême, celle qui ne comporte aucun danger, aucun effet secondaire, aucun danger de déviation. Et bien sûr, en plus, elle est justifiée. Si quelqu'un, par exemple, nous veut du tort, cette personne qui est animée par la malveillance, eh bien, en fin de compte, elle finit par se faire du tort à elle-même. Et donc, elle est certainement un objet justifié de notre compassion. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode pour dissiper les obstacles et les influences négatives que de méditer sur la compassion. De plus, il faut aussi, pour ne pas être justement la cible de toutes ces influences négatives ou de toutes ces difficultés, voir tous les phénomènes comme des rêves, comme des illusions, comme étant dénués d'existence propre. Et alors, il n'y a plus ni cible, ni objet qui puisse nous nuire d'aucune façon.
Oui.
Donc maintenant, nous en venons à l'initiation principale. Et cette initiation principale, son but en fait est d'actualiser un potentiel qui est en nous-mêmes, ce potentiel qui est la nature fondamentale de notre esprit, mais qui est obscurci par différents voiles. Nous avons donc cette pensée du « moi » qui surgit, je pense « moi »,« je ». Et cette pensée, bien sûr, elle est présente chez tous les êtres vivants, chez tous les êtres animés. Cette pensée, c'est un événement de conscience. Ce « moi », ce « je », ce n'est pas une entité substantielle, bien sûr. Et donc, le fait que ce soit un événement de conscience montre bien aussi qu'elle n'a pas de solidité intrinsèque. Et que donc tous les voiles qui obscurcissent la conscience et qui ont été fabriqués par la conscience, ils ont par nature des voiles qui peuvent être dissipés. Parce qu'ils n'ont pas d'existence permanente, ils ne font pas partie intrinsèquement de la nature de l'esprit. En effet, si l'on reconnaît cette nature ultime, si l'on reconnaît que la conscience est dénuée d'existence véritable, en sens de réalité solide, eh bien, c'est ce qu'on appelle la nature ultime de la conscience, ou son dharmata, c'est-à-dire sa nature véritable, son mode d'être véritable. Alors, cette conscience, d'un autre côté, la pensée, l'esprit, on ne peut nier son existence, puisque c'est un fait d'expérience. D'un autre côté, si l'on cherche à voir comment est-ce qu'il existe et qu'on le cherche à l'isoler comme une entité quelconque, on ne saurait jamais le trouver comme une entité séparée. Ce n'est qu'encore une fois qu'un flot constant de transformation. Alors, il y a plusieurs aspects à cette pureté naturelle de l'esprit. Et l'aspect le plus profond, c'est cette luminosité dont nous avons parlé. Cette luminosité qui n'est jamais interrompue, même si elle n'est pas permanente, mais son continuum n'est jamais interrompu. Et également, comme c'est ça la nature fondamentale de l'esprit, il y a toujours une possibilité de l'actualiser, en l'actualisant, en écartant les voiles qui masquent sa compréhension. Donc les voiles sont par nature éphémères, ils sont rajoutés à cette nature, mais ils ne lui appartiennent pas. Cette nature profonde, c'est aussi ce qu'on appelle le Tathagatagarbha, c'est-à-dire la nature, l'essence de la bouddhéité, ou parfois on appelle ça la nature de Bouddha. Dans le vocabulaire des mantras secrets, on appelle ça la luminosité primordiale et continue. Et cette luminosité primordiale, dès qu'on la laisse briller en écartant les voiles de l'inconnaissance, elle est toujours présente, elle est toujours là. Ce qui veut dire que même si ces voiles obscurcissants, qui sont formés par les kleshas, les émotions négatives, les facteurs mentaux perturbateurs, même s'ils sont extrêmement puissants et épais, il y a toujours un moyen de les éliminer, et aussi forts soient-ils, ils ne font jamais partie de cette luminosité fondamentale de l'esprit. Ils ne la pénètrent pas, ils n'entrent pas dans cette luminosité. Ce sont comme des voiles qui la recouvrent simplement. Donc, selon encore une fois le véhicule des mantras, ce qu'on appelle les quatre corps, les quatre kayas ou les quatre dimensions de la bouddhéité, c'est notre nature véritable. Ils font partie de nous, simplement ils sont obscurcis. Donc il faut pour les révéler ou les actualiser qu'il y ait des causes et des conditions favorables. C'est précisément le rôle de l'initiation. Le rôle de l'initiation est d'éveiller notre potentiel à reconnaître, à réaliser cette luminosité fondamentale de l'esprit. Donc le fait que nous ayons ce potentiel, c'est l'initiation fondamentale qui est déjà présente en nous. La transmission d'une initiation par un maître spirituel, c'est l'initiation au niveau de la voix. Et actualiser ce potentiel que nous avons toujours eu, c'est l'aspect de l'initiation qui correspond au fruit ou au but. Donc les différentes étapes de l'initiation, il y en a quatre, nous allons le voir, sont liées aussi aux quatre dimensions, aux quatre corps du Bouddha, qui sont actualisés au terme du chemin spirituel. Ces quatre corps correspondent aussi au corps, à parole et à l'esprit du Bouddha et à sa nature ultime qui est le support de ces aspects éveillés du corps, de la parole et de l'esprit. Nous avons donc ce qu'on appelle correspondant au corps, le corps de manifestation ou le nirmanakaya. Ce qui correspond à la parole, c'est le corps dit de jouissance divine, le sambhogakaya. Et ces deux, le corps de manifestation qui correspond au corps et le sambhogakaya qui correspond à la parole, appartiennent au monde de la forme. Donc ces deux aussi sont souvent regroupés sous le nom de rupakaya, le corps formel. Puis nous avons troisièmement donc le corps de connaissance ou de sagesse primordiale qui correspond à l'esprit et qu'on appelle le plan, la dimension absolue ou le dharmakaya. Et tout cela ne sont pas bien sûr des corps ou des dimensions différentes, ce ne sont que des aspects d'une même nature. Et pour indiquer l'aspect indivisible de ces trois corps ou de ces trois dimensions, on a un quatrième qui n'est en fait qu'une indication ou que ces trois corps ne sont en fait que des aspects d'une seule nature. Et donc c'est la dimension de la nature ultime ou Swabhavikakaya qui est inhérente à tout être animé. Donc c'est aussi, on pourrait dire, le support des trois corps, des trois dimensions. Et alors, grâce à l'initiation, on a la possibilité, peu à peu, au fil de la voie, d'actualiser donc ces aspects éveillés, ces aspects de sagesse de notre corps, de notre parole et de notre esprit, qui sont donc unis par nature au corps, à l'esprit et à la parole du Bouddha. Tout cela n'est rendu possible, encore une fois, que par la présence de ce continuum de la conscience primordiale, de cette luminosité primordiale qu'est la conscience, qui n'a ni début ni fin. Alors, quand on dit qu'elle n'a ni début ni fin, ça ne veut pas dire qu'elle soit permanente ou éternelle dans le sens de quelque chose qui est immuable et qui ne change pas. Ce qui est ininterrompu et qui n'a ni début ni fin, c'est le continuum de cette conscience primordiale, de cette luminosité primordiale. Mais elle est impermanente à chaque instant. C'est un flot qui change à chaque instant. C'est un flot dynamique, un continuum, pas une entité qui demeure en permanence. De la même façon, on dit par exemple que l'activité bienfaisante des Bouddhas est toujours là et qu'elle embrasse tout, qu'elle est omniprésente. Mais quand on dit qu'elle est toujours là, cette permanence n'est pas une permanence de quelque chose qui ne change pas. C'est une permanence au sein d'un continuum, d'un flot en constante transformation, mais elle n'est jamais absente. C'est dans ce sens donc qu'on dit qu'elle est toujours là. On dit parfois aussi que la vérité absolue est permanente, mais encore une fois, pas permanente dans le sens de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas. Elle est simplement toujours là dans le sens que c'est une nature qui est au-delà de la dualité entre le sujet et l'objet. Donc les quatre initiations, l'initiation du vase, l'initiation secrète, l'initiation de la connaissance, l'initiation par la parole, correspondent à l'actualisation de ces quatre dimensions. Afin de conférer une initiation, bien sûr, on ne peut pas faire le simplement comme ça en décidant qu'on va donner une initiation. Il faut toutes sortes de qualifications pour ça. Il faut donc tout d'abord soi-même avoir reçu, bien sûr, la transmission de l'initiation. Il faut qu'il y ait une transmission spirituelle ininterrompue depuis l'origine de cette initiation. Il faut également que le maître qui confesse cette initiation ait accompli les récitations correspondantes à cette initiation, c'est-à-dire qu'il ait effectué cette méditation et la récitation des mantras en retraite, ou du moins un certain nombre d'entre elles sur une longue période de temps. Ça, c'est en général. Et puis, avant de conférer l'initiation à un moment précis, il faut que le maître ait accompli une préparation. Mais donc, normalement, ça doit être un maître parfaitement qualifié qui doit conférer ce genre d'initiation. En ce qui me concerne, dit sa sainteté, il me semble vraiment difficile de dire que j'ai toutes ces qualifications et toutes ces qualités. Certes, je peux dire que j'ai une aspiration extrêmement puissante à développer la bodhicitta, la pensée altruiste vers l'éveil. J'ai une aspiration extrêmement puissante de comprendre le sens de la vacuité, mais je ne pourrais certainement pas dire que j'ai atteint un grand degré d'accomplissement dans le yoga de la déité, dans les pratiques de visualisation. Ça, c'est, je pense, beaucoup plus difficile. Je n'ai pas ces qualifications. Mais néanmoins, j'ai reçu cette initiation des maîtres authentiques, je l'ai pratiquée, et donc dans ce sens-là, même si je n'ai pas toutes ces qualités, je vous la transmets aujourd'hui. Également, de la part des disciples, il faut également que nous-mêmes, nous ayons cette aspiration de tout notre être pour développer la compassion, pour développer l'aspiration à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Il faut que nous ayons une aspiration profonde à essayer de réaliser la vacuité. Il faut que nous essayions également de demeurer dans la contemplation de la nature de l'esprit qui est sans dualité entre le sujet et l'objet. On dit que la meilleure attitude ou la vision que nous devons avoir est celle qui est exprimée par le Madhyamika, c'est-à-dire la non-dualité, l'union de la vérité relative et de la vérité ultime. C'est donc avec cette vision des choses que nous devons recevoir l'initiation. Également, nous devons avoir une aspiration à pratiquer, à voir le mandala et les déités de ce mandala ici présentes. Comme je l'ai dit hier, l'attitude principale que vous devez avoir, c'est l'attitude de l'esprit d'éveil, l'esprit altruiste infini qui souhaite développer de façon infinie la compassion pour tous les êtres afin de les amener à l'éveil fini, qui souhaite développer de façon infinie la compassion pour tous les êtres afin de les amener à l'éveil pour qu'ils soient délivrés de la souffrance. Aussi une grande aspiration à comprendre la vacuité. Et pour cela, il convient d'abord au préalable d'examiner cette notion de moi que nous avons. Il est certain que nous avons ce sentiment d'un moi, on ne peut le nier. C'est un fait d'expérience, donc on ne peut pas dire qu'il est totalement non existant puisque nous en faisons constamment l'expérience. Certes, donc il a une forme d'existence, mais quelle forme d'existence? De quelle manière existe-t-il? Or, si on le cherche, et quand on dit le chercher, c'est chercher s'il y a une entité, et bien si on le cherche, on ne trouve rien. De quelle façon existe-t-il? Il existe de cette façon, puisqu'encore une fois, on en fait l'expérience, c'est cette expérience qui souhaite éviter la souffrance, qui souhaite atteindre au bonheur, qui souhaite atteindre à la bouddhéité. Donc, il apparaît d'une façon quelconque. On le cherche, on ne le trouve pas, il apparaît néanmoins, c'est ça qui fait toutes les aspirations, les espoirs de notre existence. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est finalement qu'une désignation conceptuelle. Ce n'est qu'une étiquette que l'on attache au flot, à ce continuum de conscience et des agrégats physiques. Ce n'est qu'un nom, ce n'est qu'un label, mais qui n'a pas d'autre existence que cette désignation que nous associons à ce continuum dynamique. Donc, il n'est ni inexistant ni non existant. Il n'est pas non existant quand nous en faisons l'expérience, il n'est pas existant parce qu'on ne trouve pas de réalité ultime à ce moi. Donc, on peut dire que sa manière d'existence est encore une fois reliée à ce que nous avons appelé l'interdépendance. Il apparaît en dépendance avec toutes sortes d'autres phénomènes, ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas existant par lui-même, de lui-même. Il n'a pas d'existence autonome, il n'a d'existence qu'en relation avec d'autres choses. Donc c'est comme de cette façon-là que nous disons que sa nature est vide. Mais attention, vide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que c'est une vacuité d'autonomie, d'existence intrinsèque, d'existence propre. Mais il est important, pour revenir à ce moi donc, et à son absence d'existence propre, d'en faire l'expérience vraiment. Par exemple, lorsque nous avons un fort sentiment de désir ou un sentiment de colère ou de répulsion, à ce moment-là, immédiatement, regardons en nous, essayons de voir ce moi qui désire, ce moi qui est en colère. Comment est-il? Est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut l'attraper de la main? Est-ce qu'on peut le localiser quelque part? De la même façon, lorsque examinons maintenant l'objet d'un désir très puissant ou d'une colère très puissante, cet objet, il nous apparaît, dans le cas d'un désir puissant, comme étant 100% désirable. Dans le cas d'une colère ou d'un sentiment de répulsion, il nous apparaît comme étant 100% haïssable. Mais est-ce que ça correspond vraiment à la nature des choses?
Et
Et maintenant, d'où viennent ces perceptions des choses étant comme 100% désirables ou 100% haïssables? N'est pas simplement parce que nous avons cet attachement à la réalité des choses, au fait que ces caractéristiques existent de façon intrinsèque, mais c'est là bien sûr la manifestation première de l'ignorance que cet attachement à la réalité des choses. C'est les causes donc de notre souffrance, c'est la source de tous nos maux. Et puis si l'on considère les autres êtres, c'est aussi à cause de cet attachement si fort, forcené à la réalité des choses, que naissent en leur esprit toutes ces émotions négatives, obscurcissantes, et qui vont être cause de leur souffrance. Donc lorsque l'on comprend cela, lorsque l'on contemple ça, on ne peut pas s'empêcher de penser avec force, puissent-ils tous les êtres être libérés de cet attachement à la réalité? Puissent-ils être libérés de l'influence, de l'esclavage, de ces poisons, de ces toxines mentales que sont les facteurs mentaux obscurcissants et les émotions négatives? Et donc, nous-mêmes y compris, bien sûr, puissions-nous tous être libérés du joug de ces émotions négatives et de cette ignorance qui nous fait prendre les phénomènes pour existants de façon intrinsèque. Et donc, c'est ce souhait extrêmement puissant que nous devons maintenant avoir à l'esprit, puissions-nous libérer de tous les êtres de ces causes de la souffrance, car tous les êtres souhaitent échapper à la souffrance et souhaitent connaître le bonheur. Il faut également que nous développions une aspiration à la voie supérieure des tantras. En effet, lorsque nous souhaitons nous débarrasser de cet attachement à la réalité des choses, il y a plusieurs niveaux dans ces attachements. Il y a des attachements grossiers qui consistent simplement dans nos perceptions ordinaires à percevoir les choses comme étant douées d'existence intrinsèque, comme étant douées de caractéristiques qui leur appartiennent vraiment, comme étant douées de permanence et d'autonomie. Mais il y a plus que cela, on peut se débarrasser de cet attachement grossier et malgré tout avoir encore des attachements extrêmement subtils à l'existence des phénomènes. Et on appelle ça techniquement, ces attachements subtils sont désignés sous les termes d'apparence, d'absence d'apparence et d'obtention. Ce sont des termes techniques qui réfèrent à différents niveaux de subtilité de cet attachement à la réalité des choses. Or, il est dit que, et notamment cela a été clairement expliqué par l'un des disciples de Nagarjuna, qui s'appelait lui-même Nagabodhi, que si l'on n'a pas dissipé ces attachements les plus subtils à la réalité des choses, eh bien on peut bien accumuler des mérites de toutes sortes, par les offrandes, par même en donnant ses membres et son corps en offrande, pendant des siècles et des kalpas, des ères entières. Mais si on n'a pas dissipé ces attachements les plus subtils, qui encore une fois sont reliés à ces trois aspects, trois types d'apparence, eh bien, on ne saurait atteindre à l'état de la bouddhéité. En revanche, dès qu'on a éliminé ces attachements subtils, la bouddhéité est réalisée. Nous avons donc deux choses à nous débarrasser. Tout d'abord, nous devons vaincre les ennemis que constituent les kleshas, les émotions obscurcissantes, les émotions négatives. Mais nous devons vaincre ces toxines mentales, c'est le propre et le résultat du grand véhicule. Mais il faut aussi vaincre ces attachements les plus subtils dont nous venons de parler et qui sont liés aux tendances très subtiles qu'ont laissées dans le flot de notre conscience ces toxines mentales, même lorsqu'elles ont encore disparu, comme un parfum qui demeure au fond d'une bouteille. Et pour cela, il faut donc, pour les éliminer, mettre en œuvre la pratique du véhicule des mantras. Et donc, engendrons en notre esprit une puissante inspiration, d'une part, à nous libérer ou à vaincre les ennemis que sont les toxines mentales. Deuxièmement, à vaincre les attachements les plus subtils qui sont associés à ces tendances. Il faut de nouveau penser ici à cette notion d'individu et en quoi est-ce que cet individu, de quelle façon existe-t-il? Ce moi, donc, existe-t-il véritablement? Où devons-nous le trouver? Et si on regarde ce qu'on appelle les agrégats, de quoi sommes-nous faits? Nous sommes faits des éléments de la terre, de l'eau, du vent, du feu, de l'espace. Donc, bien sûr, on ne saurait, comme l'explique bien Nagarjuna dans le Ratnavali, on ne peut pas trouver ce moi comme une entité quelconque dans ces différents agrégats aussi de la forme et des différents éléments du corps. Donc on pourrait penser beaucoup plus que ce moi est associé au flot de la conscience, car c'est une sorte de perception intuitive que nous avons quand nous pensons « j'ai chaud, j'ai froid, j'existe ». Mais Nagarjuna, ce sont les paroles aussi du Bouddha, dit non, le moi n'existe pas non plus dans la conscience. Mais qu'entendait-il par là? Eh bien, c'est vrai que quand on analyse les différents aspects de la conscience, par exemple les consciences liées aux cinq sens, la conscience de la vision, la conscience liée à l'ouïe, au goût, etc., eh bien, on ne peut pas dire que vraiment ce moi soit lié à ces consciences liées aux cinq sens, parce que lorsqu'elles disparaissent, alors le moi disparaîtrait aussi. Par exemple, dans le sommeil profond, ben, nous n'avons pas la perception des cinq sens, et pourtant on peut dire que la personne a disparu. Ou lorsqu'on s'évanouit, on ne peut pas dire qu'on a vraiment disparu, parce qu'on dit bien en se réveillant « je me suis évanoui ». Donc on a cette notion que le moi n'est pas brusquement, on n'était plus là lorsque nous étions évanouis. Donc le moi ne peut résider dans la conscience des cinq sens. Alors on pourrait se dire, existe-t-il dans un corps mental, cette image mentale que nous avons de nous-mêmes, de notre corps, ce corps plus subtil? Mais bon, par exemple, par corps subtil, on entend le corps que notre corps dans un rêve. Nous avons ce corps subtil qui est un corps mental dans le rêve. Ce n'est pas le corps physique dans le rêve qui se déplace et qui fait l'expérience de différentes choses, qui agit dans le rêve. Mais à nouveau, ce corps mental, eh bien, du rêve, par exemple, il disparaît dans le sommeil profond, il s'évanouit. Pourtant, on ne dit pas que la personne a disparu. Alors maintenant, est-ce que ce moi pourrait être associé à l'aspect le plus fondamental de la conscience, celui de la luminosité fondamentale? Par exemple, il y a toujours un sujet, indéniablement, quand ce qu'on médite sur la vacuité ou qu'on reconnaît du point de vue subjectif, la luminosité fondamentale, on pense bien, je suis en train de méditer sur la vacuité, ou j'ai conscience de l'aspect lumineux de l'esprit. Donc ce sujet-là, de nouveau, il est associé vaguement avec un moi, mais la luminosité fondamentale de l'esprit elle-même, là, il n'y a pas de notion de moi. Donc c'est dans ce sens que Nagarjuna et le Bouddha disaient, le moi ne peut pas être trouvé dans la conscience, parce que si on va au niveau le plus profond de la conscience, eh bien, on ne trouve pas ce moi. Alors on pourrait se dire, est-ce que cette notion de moi était simplement une sorte quelque chose qui apparaît quand sont assemblés les cinq agrégats, c'est-à-dire les agrégats physiques et l'agrégat du mental? Mais il n'y a aucune raison de penser qu'à part une désignation mentale, qu'il y ait là une entité quelconque qui corresponde simplement à un assemblage. Est-il séparé de ces cinq agrégats? Ben, il est certain aussi que si on sépare tous ces différents agrégats, il n'y reste pas un moi qui soit au milieu. Donc on ne peut pas le trouver. Mais le simple fait de ne pas trouver ce moi, est-ce là simplement la vacuité? Pas seulement non plus. En effet, le moi n'est pas pure vacuité, parce que nous avons cette expérience, cette perception du moi. Donc encore une fois, on en revient ici, comme le moi étant un fait d'expérience, et que c'est ce moi qui accumule, qui est le support, ou cette personne qui est le support, ce continuum de cette personne qui est le support du karma, qui va du samsara et atteint au nirvana. Donc c'est quelque chose qui est lié d'une certaine façon, un concept qui est lié à ces agrégats, aux six et aux cinq éléments qui constituent le corps et la conscience. Mais la façon dont il existe, ce n'est pas comme une entité quelconque qui soit nulle, qui soit quelque part, où que ce soit. c'est simplement à nouveau par le jeu des relations, de l'interdépendance. L'interdépendance est la réunion momentanée de ces différents agrégats et du flot de la conscience fait qu'en dépendance sur cela, on conçoit ce concept, cette désignation d'un moi. Donc il n'est pas totalement non existant, néanmoins il n'a qu'une existence sous la forme de relation. Il n'existe qu'en dépendance avec l'ensemble de ces causes et ces conditions, de ces phénomènes qui sont réunis. Donc c'est important de nous débarrasser de ce sentiment très puissant du moi. Lorsque nous pensons « je marche », il faut se dire « il n'y a pas de moi qui marche ». Lorsque nous pensons « je suis assis », il faut se dire « il n'y a pas de je qui soit assis ». Lorsque nous pensons « je médite », il faut se dire « là, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi ». Il faut nous habituer parce que nous avons ce sentiment inné dont nous avons beaucoup de mal à nous débarrasser, que le moi n'existe pas simplement sous le jeu de l'interdépendance ou comme une désignation mentale. Ce n'est pas la façon dont nous le percevons ordinairement. Bien au contraire, ordinairement, nous pensons que ce moi a une existence propre, qu'il existe intrinsèquement quelque part en nous-mêmes. Et ça, c'est une fausse vision des choses. Et pour la dissiper, pour dissiper non seulement cette perception, mais toutes les tendances que nous avons accumulées pendant très longtemps, de penser qu'il y a ainsi un moi, il faut s'habituer dans l'autre sens, il faut défaire cette habitude par une autre habitude qui est celle de constamment penser « le moi est une illusion, le moi ne résiste pas à l'analyse ». Maintenant, nous allons méditer pendant une minute sur cette absence de moi. Donc le vers 43, par suite, afin d'abandonner toutes les perturbations et les voiles au connaissable, cultiver continuellement la perfection transcendante de sagesse associée à la méthode. La perfection de la sagesse, la connaissance de la vacuité, c'est la sixième des six paramitas, des six perfections transcendantes. Et l'enseignement ici, c'est qu'il ne suffit pas de s'entraîner à la méditation sur shamatha, le calme intérieur, et vipassana, la vision éclairante, et que si on n'a pas cette perception de la vacuité, ça ne suffit pas pour atteindre l'éveil. Ensuite, le vers 44 dit, il est dit que la sagesse sans méthode et la méthode sans sagesse sont des chaînes, ainsi de vous séparer d'aucune des deux. En effet, la sagesse de la vacuité, la méthode de la compassion et de l'accumulation des mérites, donc ces deux accumulations, l'accumulation de sagesse et de mérite, c'est ce qui permet d'atteindre ou de réaliser la dimension absolue de la bouddhéité et la déité et la dimension formelle, le corps formel de la bouddhéité. Mais ces deux sont deux aspects d'une seule nature, donc on ne peut pas réaliser simplement l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Ils sont inséparables. C'est pour ça que dans les méthodes aussi, il ne faut jamais séparer la sagesse de la méthode et la méthode de la sagesse, sans quoi on ne saurait progresser sur le chemin. Donc le verset ensuite 45 qui demande qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que la méthode. Afin d'écarter les doutes, je vais clarifier la juste distinction entre méthode et sagesse. Ici, qu'est-ce qu'on entend par la compréhension de la vacuité, la sagesse? La vacuité, en fait, ce n'est pas quelque chose d'autre, ce n'est pas quelque chose de séparé, ce n'est pas quelque chose qui demeure quand on a enlevé tous les phénomènes. Non, La vacuité, c'est la nature même des phénomènes. C'est la façon dont ils sont, c'est la façon dont ils demeurent, c'est la façon dont ils apparaissent. C'est leur nature ultime, c'est leur nature véritable. Et donc, on ne peut pas envisager la notion de vacuité sans la notion de phénomène, puisque c'est la nature des phénomènes. Parce qu'on a toujours tendance à s'imaginer que la vacuité, c'est l'absence de phénomènes ou c'est autre chose que les phénomènes. C'est en fait la nature des phénomènes eux-mêmes. Elle n'est pas séparée des phénomènes. Et donc, c'est la nature des différents agrégats du corps et de la conscience. C'est la nature de tous les phénomènes extérieurs. Et pourquoi dit-on alors qu'ils sont vides, puisque à l'évidence, ces phénomènes, nous les voyons, nous les percevons, nous les en faisons l'expérience. Eh bien, précisément, on ne dit pas qu'ils sont totalement non existants. Ils ont apparemment une naissance apparente. Ils cessent parfois de façon apparente. Mais cessent-ils véritablement ? Naissent-ils véritablement ? C'est là la question qu'il faut nous poser. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont de simples apparences. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, est-ce que cela recouvre une réalité solide par en dessous ? Eh bien, si on l'examine, on s'aperçoit qu'on ne peut pas trouver de réalité solide sous les apparences des phénomènes. Et on examine ça, par exemple, en se disant, si un phénomène devait vraiment naître comme une entité solidement, réellement existante, alors il n'y a que quatre possibilités. Est-ce qu'elle va naître d'elle-même ? Rien ne peut naître de soi-même, bien sûr. Est-ce qu'elle va naître de quelque chose d'autre ? Mais quelque chose d'autre, ça veut dire de fondamentalement autre. Alors là, elles n'ont rien à voir, donc ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'elle peut naître à la fois de soi-même et de l'autre ? Non plus. Est-ce qu'elle peut naître ni de l'un ni de l'autre ? Donc quoi qu'il en soit, à partir du moment où on envisage des entités qui existent par elles-mêmes, on ne peut pas envisager un véritable processus de production. Les choses ne peuvent apparaître précisément uniquement parce qu'elles sont vides d'existence propre, et c'est cette vacuité qui permet le déploiement des phénomènes. De même, on pourrait se dire, est-ce que le processus de cause à effet, est-ce que lorsque l'effet se produit, est-ce que la cause est toujours là ? Si elle est toujours là, eh bien, la cause et l'effet sont simultanés. Ou alors est-ce qu'elle a disparu ? Si elle a disparu, il n'y a plus de cause, donc l'effet ne peut pas se produire. Tout ça, c'est pour réfuter la notion qu'il pourrait y avoir des entités qui existent vraiment. Mais ces réfutations ne s'appliquent pas à des entités qui ne sont que de simples apparences. Donc, les phénomènes n'existent que nominalement, ils n'existent que comme des désignations conceptuelles, et en vérité, ils ne sont jamais nés sous la forme d'entités véritables, douées d'existence propre. Donc les versets continuent en disant, vers 46, les vainqueurs ont expliqué comme étant la méthode toutes les pratiques vertueuses, telles que la perfection, la générosité, hormis la perfection de la sagesse. Quiconque cultive l'aspect de la sagesse avec le pouvoir de l'accoutumance à la méthode atteint rapidement l'éveil, mais pas en méditant uniquement le non-soi. La sagesse est écrite comme la conscience de la vacuité de nature propre, qui réalise que les agrégats, les sphères et les bases de connaissances ne naissent pas. Il est illogique qu'un existant puisse naître. Le non-existant est pareil à une fleur dans l'espace. Parce que dans les deux cas, il s'en suivrait des conséquences absurdes. Tous deux n'apparaissent pas non plus ensemble. Cela analyse donc tout d'abord les causes, la façon dont quelque chose qui existerait vraiment pourrait venir à l'existence. Et encore une fois, ce raisonnement s'applique uniquement à ceux qui penseraient que les phénomènes existent vraiment, par eux-mêmes. À ce moment-là, peuvent-ils naître d'eux-mêmes ? C'est absurde. Quelque chose qui existe déjà n'a pas besoin de renaître. Naître de soi-même, ça veut dire que soi-même existe déjà. Donc si ça existe déjà, il n'y a pas besoin de naître. Est-ce que quelque chose pourrait naître de quelque chose de totalement différent ? Ou alors quelque chose qui n'existerait pas ? Oui, là, c'est la position, c'est entre naître quelque chose qui existe déjà, alors à ce moment-là, ça n'a plus besoin de naître. Ou alors quelque chose qui n'existe pas. Si quelque chose pouvait naître de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire si le néant pouvait devenir quelque chose, à ce moment-là, n'importe quoi pourrait naître de toute chose. Et ça serait comme une fleur qui apparaîtrait au milieu de l'espace. Si les choses pouvaient naître de rien, à ce moment-là, tout pourrait apparaître n'importe quand, n'importe comment. Ensuite, donc dans les deux cas, il s'en souvrait des conséquences absurdes. Maintenant, les choses ne naissent pas d'elles-mêmes, ni d'autres, ni des deux, et pas non plus sans cause. Par conséquent, il n'y a pas d'être en soi. Elle ne naît pas d'elle-même, comme nous venons de le dire. Elle ne naît pas d'autre, parce que autre ici voudrait dire une autre entité qui soit totalement étrangère à cette première entité. Et dans ce cas, alors, si on pouvait naître de quelque chose qui n'a rien à voir, si l'effet naissait d'une cause qui n'a rien à voir avec l'effet, alors, de nouveau, comme toutes les choses sont équivalentes pour n'avoir rien à voir avec l'effet, tout pourrait naître de n'importe quoi. Donc, si ça ne peut pas naître ni de soi, ni d'autre chose, ça ne peut pas naître non plus des deux, ni de l'absence des deux. Donc ça, c'est La première, c'est l'analyse des causes. La deuxième, l'analyse des fruits. Et enfin, l'analyse de la nature même des choses. En outre, un être en soi n'étant pas perçu, lorsqu'on examine si tous les phénomènes sont un ou multiples, il est certain qu'ils n'ont pas de nature propre. Ça, c'est le raisonnement du texte de l'ornement de la voie du milieu, le Madhyamika Alankara de Shankaracharya, qui peut voir si est-ce qu'il pourrait exister une entité unique. Et on s'aperçoit qu'une entité unique, isolée de toutes, ne pourrait pas exister. Donc s'il n'y a pas d'entité unique, il ne peut pas y avoir non plus un grand nombre d'entités uniques. Donc quelle que soit la façon dont on retourne les choses, il ne peut pas y avoir d'entité qui existe véritablement, ni unique, ni multiple. Des œuvres telles que les 60 distances sur la vacuité, le Shunyata Satpali, ou les stances fondamentales sur le milieu, Mula Madhyamika Karika, exposent que la nature des choses est établie en tant que vacuité. Comme ce texte serait trop long, je ne m'étendrai pas ici. Je les ai seulement mentionnés comme les doctrines établies à méditer. Donc, puisqu'une nature propre n'est perçue dans aucun phénomène, ce qui est méditation du non-soi est méditation de sagesse. La sagesse ne voit de nature propre en aucun phénomène. Analyser pareillement cette sagesse elle-même et méditer cela sans construction mentale. La sagesse de la vacuité, elle-même aussi, elle est vacuité. Ce n'est qu'une méthode pour découvrir cette vacuité, mais rien, ni les phénomènes, ni la sagesse qui comprend la nature des phénomènes. Tout cela, ce ne sont que des constructions mentales et la nature ultime est au-delà des pensées discursives. D'ailleurs, il est dit dans certains textes que les pensées discursives sont la cause même du samsara. Donc le verset 56 dit « Ce devenir né de la pensée discursive est lui-même pensée discursive, par conséquent l'abandon de toutes les conceptions est le suprême au-delà du malheur, le nirvana. Car pour passer au-delà du malheur, il faut abandonner le mode de pensée conceptuelle, discursive, les fabrications mentales qui sont les causes mêmes du samsara. » En outre, le vainqueur transcendant a déclaré « La pensée discursive, cette grande ignorance, précipite dans l'océan de l'existence cyclique qui réside en l'absorption libre de conception et claire de pensée discursive comme un ciel sans nuages. Ce ciel sans nuages, c'est celui de la vérité absolue, de la nature ultime de l'esprit. La souvenance, l'entrée dans le non conceptuel, c'est le nom d'un texte, l'avilkapa praveshada dharani, dit encore, lorsque le fils des vainqueurs contemple sans pensée discursive cette sainte doctrine, contempler sans pensée discursive, c'est contempler sur le mode qui transcende l'intellect, sur le mode de la pensée non-duelle. Il transcende les routes difficiles des conceptions et atteint progressivement le non-conceptuel. Après avoir acquis la certitude, au moyen des écritures et du raisonnement, que tous les phénomènes sont dénués de nature propre et non-nés, médités sans pensée discursive. Le but de cette méditation, c'est de contrecarrer notre perception habituelle des choses. Nous ne voyons pas les choses comme étant de simples apparences, comme étant semblables à des illusions. Nous pensons qu'elles sont bien là, comme des entités séparées, que chaque objet est une entité séparée, douée de caractéristiques qui lui sont intrinsèques, qu'elles sont nées d'autres entités qui elles aussi existent fort bien. Et donc c'est pour éliminer par l'analyse et la contemplation cette perception erronée des phénomènes que nous déconstruisons ces phénomènes en montrant que des entités qui existeraient véritablement ne pourraient pas naître d'une cause qui existe encore ou d'une cause qui a disparu. Elles ne pourront pas naître d'elles-mêmes ni d'autre chose qu'elles-mêmes. Et donc ainsi, on rend impossible le mécanisme de cause à effet dans la mesure où on postulerait qu'il existerait vraiment des entités qui existent par elles-mêmes. La seule solution, c'est donc que les choses apparaissent, certes, qu'elles sont à la fois existantes et non existantes. Elles sont existantes dans la mesure où elles apparaissent. Elles sont non existantes dans la mesure où leur nature est dénuée de réalité intrinsèque.
Oui. Tathara tini kum chen na rimji tre so top chen ne rakwa la so top nyu de sanje shang shu yun mi rin.
Donc ensuite, nous en sommes donc au vers 60. Ayant de cette manière cultivé cela et obtenu graduellement les stades chaleur, etc., la terre félicité et les suivantes sont achevées, et l'épanouissement d'un éveillé ne sera pas loin. Méditer de cette manière, cela veut dire méditer progressivement sur la vacuité, approfondir notre compréhension, notre réalisation de la vacuité. Et ce faisant, on parcourra donc les différentes, ce qu'on appelle les cinq voies, la voie de l'accumulation, la voie de l'union, la voie de la félicité, la voie de la méditation et la voie où il n'y a plus rien à apprendre. Et également les 10 terres, les 10 bhumis, donc qui conduisent finalement à devenir un éveillé, c'est-à-dire un Bouddha. Au moyen des activités de pacification, d'accroissement et autres, ce sont les activités spontanément bienfaisantes qui s'émanent naturellement de celui qui a atteint l'éveil, actualisées par la force des mantras. Cela veut dire aussi que là, il faut pénétrer dans la voie des mantras et le pouvoir des 8 grands accomplissements, tels que celui du vase excellent. Il est dit que les collections pour l'éveil, l'accumulation de sagesse et de mérite, sont parachevées dans la joie. Le tantra de l'action, de la conduite, etc., affirme que celui qui désire les pratiquer le mantra secret, devra, pour recevoir l'initiation du précepteur, servir, offrir des objets précieux, se conformer à sa parole et plaire au Saint-Maître par tous les moyens. Il est donc nécessaire, afin de rentrer sur le chemin des mantras secrets, des chemins de la pratique du tantra, de recevoir une initiation. Ravi, le maître conférera l'initiation d'un précepteur réalisé. Toutes les fautes seront purifiées et vous aurez la fortune de parfaire les accomplissements. Selon le grand tantra de l'éveillé primordial, c'est-à-dire le tantra de la roue du temps, du Kala Chakra, ceux de conduite pure ne devraient pas recevoir les initiations secrètes et de sagesse, car elles feraient obstacle à leurs efforts. Ceux de conduite pure, ça veut dire ceux qui ont pris des vœux monastiques, ils ne devraient pas donc recevoir la troisième initiation qui fait appel à des pratiques yogiques qui feraient obstacle à leurs vœux monastiques. Prendraient-ils ces initiations, qu'elles empêcheraient le maintien de la cesse d'une conduite pure? Le vœu d'austérité se dégraderait et des transgressions s'élèveraient, menant ces pratiquants à la défaite, c'est-à-dire à la perte de leurs vœux monastiques. En raison de leur chute certaine et en de mauvaises destinées, ils n'auraient jamais aucune réalisation. Par contre, et sans faute, la personne qui a conscience de cela, initiée par le précepteur, elle peut écouter et enseigner tous les tantras, célébrer les rites des offrandes brûlées, c'est les rites pour les prêtas, c'est-à-dire les esprits affamés, donner des présents, etc. À la requête de Chanchupe, c'est le roi dont nous avons parlé précédemment, qui avait invité Atisha au Tibet. L'ancien Sri Dipankara, c'est le nom d'Atisha, qui a vu des explications de la doctrine dans les discours et d'autres textes, a composé cette brève exposition de la voie vers l'éveil. Elle fut traduite en tibétain par les deux grands traducteurs Lodin Sherap et Gewel Lodjo. Ceci conclut donc l'enseignement sur le flambeau pour la voie de l'éveil. Ceci conclut cet enseignement. Ce qui est important, bien sûr, c'est de les mettre en pratique. De mon côté, je fais de mon mieux pour les mettre en pratique. De votre côté, je vous enjoins également d'en faire l'expérience par vous-même le mieux que vous puissiez. Également, à la fin d'un enseignement, à la fin d'une pratique, il est souhaitable de partager tous les mérites, toute l'énergie positive qui aurait pu être engendrée par cet enseignement et par cette pratique, la dédier à tous les êtres. Également, de dissoudre toute chose dans l'espace du non-attachement, de la non-représentation, de demeurer dans la nature ultime des choses. Et je vous demande donc de faire cette dédicace, de dédier ainsi les mérites et de rester dans cet état de non-attachement au phénomène.
First, I would like to pay homage to Buddha of Compassion, His Holiness, and homage to all the Sanghas. And I would like to thank very much from the bottom of my heart to all my brothers and sisters who took this precious opportunity to take the most precious teachings from His Holiness.
Pour le Bouddha doué de grande compassion, a enseigné les 84 000 sections des enseignements aux êtres et il les a passées au grand maître Tsongkhapa, qui les a couchés par écrit dans de très nombreux textes, notamment l'enseignement sur la voie graduelle, qui condense tous les enseignements du grand véhicule. Et sa sainteté a ici enseigné sur ce texte d'Atisha, qui est une sorte de quintessence de cette voie graduelle. Et il a également conféré l'initiation donc du Bouddha de la compassion.
Nous Semeba Jangba, Gulub Dagi, Tejin Zinjumbe, Chuzo Jidang, Cheta, Zonga, Chuzotan, Dega Sunju, Shumi Tapshu, Ningong Rubit in the Twitch, Langer, Tumar Shoes.
Et donc d'avoir nous conférer ces quatre initiations qui éveillent en nous le potentiel des quatre dimensions, des quatre corps du Bouddha, de l'avoir conféré à nous, tous ces disciples du centre Tsongkhapa de Pomaya, à tous ceux des autres centres qui sont venus, à tous ceux qui sont venus très nombreux recevoir cette initiation, nous exprimons nos remerciements innombrables. Le Bouddha donc a accumulé des mérites pendant d'innombrables heures et la sagesse avant d'atteindre l'éveil et il n'a pas hésité à sacrifier son corps, ses membres, tout ce qu'il possédait afin de progresser vers cette voie de l'éveil. Et donc vous représentez, vous nous avez conféré cet enseignement, donc même si nous remplissions le monde entier de joyaux, nous ne pourrons en aucun cas repayer la dette de gratitude que nous avons. Et donc pour moi, c'est comme si le Bouddha en personne était venu ici pour tourner la roue de la loi. Et donc le Bouddha avait promis qu'il reviendrait pour enseigner ceux qui, dans la durée de vie, est d'être centenaire. Et donc c'est ce qui correspond à notre époque présente. Tout comme le Bouddha Shakyamuni a enseigné en Inde, sur le sol suprême de l'Inde, et le Bouddha Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, a également conféré son enseignement dans le passé. De même, vous avez conféré ici votre enseignement. Saint Thérèse du Lama est véritablement, sans aucun doute, quelqu'un qui est source d'inspiration, de bonheur pour tous les êtres. Et le fait que nous soyons encore à même aujourd'hui de pouvoir pratiquer tous les aspects de l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire le petit véhicule, le grand véhicule et le véhicule de diamant, le Vajrayana, le véhicule des mantras en Occident, c'est bien dû à votre bonté et à votre activité éveillée. Certes, il y a de très nombreux enseignants de par le monde qui
des livres, l'enseignement du Bouddha, qui nous offre l'enseignement du Bouddha. Il y en a d'excellents maîtres aussi dans toutes les écoles du bouddhisme tibétain, mais vous êtes incomparable dans la façon et la magnitude avec laquelle vous nous conférez vos enseignements. Il y a eu donc 14 incarnations des Dalai Lama et ils ont tous contribué grandement à l'enseignement des Bouddhas, mais vous avez tout particulièrement, de façon incomparable, vous avez fait profiter tous les êtres du monde de votre enseignement. Votre enseignement est comme celui qui déchire les ténèbres dans le monde de l'inconnaissance, et donc je ne saurais assez exprimer ma gratitude à votre égard. Notamment en ce qui concerne la cause du Tibet, qui est une cause qui est fondée sur la justice. Vous œuvrez jour et nuit dans toutes les régions et les pays du monde. Et donc, si par votre activité incessante, le Tibet peut retrouver sa liberté et le dharma extraordinaire, les enseignements qu'il a toujours connus peuvent renouveau fleurir, eh bien, ce sera le résultat de votre activité. Et donc, je vous demande, vous tous qui avez reçu ces enseignements, de réfléchir à ces enseignements, de les mettre en pratique et de les chérir. On peut vous accueillir ici, c'est la bienveillance du fondateur de ce centre Tsongkhapa, Lama Yeshe.
Receive his honors, put his holy feet here, and able to arrange all these precious teachings is due to kindness by resident teacher here, Geshe Shangpa Gyatso, and director of Lama Tsongkhapa Center, Venerable Monk Gelung.
Donc également, je voudrais remercier tous les membres de ce centre Tsongkhapa de Pomaya, les différents geishés qui ont permis l'organisation de cet événement et qui sont ceux aussi qui maintiennent ce centre et ont rendu tout cela possible. Également le directeur de l'Institut, Massimo Stordi. Tous les organisateurs de cette institution du centre Lama Tsongkhapa. Et le Geshe, donc, Gyamso, a enseigné le Dharma pendant plus de 20 ans, et notamment 7 ans ici dans ce lieu précis, et nous avons une grande dette de gratitude à son égard.
I have already bribed Geshe-la to have long life. Nangba sangye be temba piya ge
Donc le guichet a déployé tous les efforts incroyables pour développer ce programme d'études philosophiques de 7 ans qu'il enseigne et qu'il conduit, avec dont il a pris la responsabilité.
Andrea, Luca, Matthew, Neria, Christian.
Je voudrais également remercier les différents traducteurs, le vénérable Lagdor, Andrea, Christophe et les autres, ainsi que bien sûr les traducteurs italiens, Luca et Andrea. J'en conclure par des vœux afin que toutes les aspirations de sa sainteté soient remplies, que toutes ses aspirations soient satisfaites, que sa vie soit longue et que la cause du Tibet trouve une solution pour le bien de tous. Je voudrais donc aussi faire la prière que toute la manière de penser de tous les dirigeants chinois qui ont une attitude extrêmement négative à l'égard du Tibet et de sa sainteté de Dalai Lama puisse changer, qu'il y ait une attitude beaucoup plus positive afin de pouvoir résoudre le problème du Tibet.
As there's so much killing now, wars all over the world, so to have a peace by generating bodhicitta, you know, compassion in everybody's mind, to dedicate that one. Then the last one is, I would like to, from the heart, to request
Et puisqu'il y a tant de guerres et de tueries dans le monde, je voudrais faire à nouveau la requête à sa sainteté le Dalai Lama de revenir enseigner en Italie. Et de donner soit l'initiation du Kala Chakra, soit d'autres enseignements.
Ideas, Buddhist concept. And then those to the Buddhist, of course, suppose these are our practice. So to think more seriously, study more seriously, then implement as much as we can. Of course, once we understand all these Buddhist sort of practice, then at the beginning we feel, oh, this is very difficult. That kind of feeling naturally come. But then, with sort of, I think, eagerness or determination, once we start implementation, then through acquaintance, eventually these things becoming more easier and easier, and eventually these practices become like part of our daily life. So everything is depend on our effort, our willingness. So that's my suggestion. Then those non-Buddhist, of course, some of these ideas or techniques can apply according to one's own sort of faith. Some of the ideas, some of the concepts which may not go well with your own tradition, then just leave it. So, that's all. I very much happy, very much sort of impressed the large number of audience the last few days. You really showing genuine eagerness to listen. Quite a big gathering, but remain completely silent. So it is very sort of impressive. So thank you very much. So we are, I think finally, I always make clear, we are same human being. You don't think of me something special. No, we're just the same human being. So therefore, therefore, we all have this same potential, potential of good, potential of bad. So what we should do is, sort of how to say, increase these positive potential and make sort of what say, increasing these, or strengthening or increasing these positive potential, then try to minimize negative potential. That's the transformation of mind, transformation of our emotion. So our mind can change, becoming more happier person. So that's our goal, be more happier, successful life, meaningful life. So that's, I think, at least our temporary our goal, this life, make more happier, more successful, more peaceful. Okay, thank you.